l'application Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole jusqu'à 11h heure de Paris, 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la hausse du prix des carburants en Guinée depuis le début du mois. Le litre d'essence et de diesel a augmenté de 25%, autant vous dire que les syndicats et la société civile sont vent debout, ils ne décolèrent pas d'ailleurs. Ces organisations craignent que par ricochet, cette hausse des prix se répercute sur l'ensemble des produits des premières nécessités. Du coup, les syndicats font pression sur le gouvernement. Journée ville morte la semaine dernière, grève générale lancée depuis 6 jours, une marche rassemblant des milliers de personnes ce mardi. Alors partagez-vous la colère des syndicats ou au contraire, comprenez-vous finalement les raisons invoquées par le gouvernement? Le gouvernement dit aujourd'hui ne plus être capable de continuer à subventionner un carburant à 8000 francs le litre, 8000 francs guinéens, alors que les cours du baril ne cessent d'augmenter. Et vous qui êtes sur place en Guinée, appelez-nous, témoignez sur l'antenne de RFI, racontez-nous quelles sont déjà les premières conséquences de cette hausse des prix dans votre vie quotidienne. 33 9 693 693 70, j'ai déjà sous les yeux des dizaines de commentaires et de témoignages, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure, vous continuez à les poster sur la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre tous les sujet que nous traitons dans nos différents journaux. Sam, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et vous avez une question sur une récente annonce du Conseil constitutionnel français s'agissant du délit de solidarité.
Effectivement, les sages du Conseil constitutionnel ont décidé que l'aide aux migrants du militant du Kirou n'était pas un délit, mais on en est de la solidarité et de la fraternité. Est-ce que cette décision pourrait avoir une influence sur la peine du militant?
Du militant.
Pourrait-elle avoir une influence sur le vote de la loi sur l'immigration et gestation au Parlement?
Oui, effectivement, c'est vrai que ça n'a échappé à personne, en tout cas à ceux qui soutiennent les militants, ce verdict, cette décision du Conseil constitutionnel français. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service France de RFI. À l'instant, Sam parlait de Cédric Héroux, c'est cet agriculteur condamné il y a bientôt un an à 4 mois de prison ferme. Pour quelle raison déjà?
Avec sursis.
Avec sursis.
Cédric Héroux, en fait, il vit dans la vallée de la Roya, qui c'est à la frontière entre la France et l'Italie, un point de passage pour de nombreux migrants. Et en fait, il a été poursuivi puisqu'il a hébergé à peu près 200 migrants qu'il est allé chercher à la frontière, qu'il a ramené chez lui et qu'il a hébergé, et donc condamné à ce titre du délit de solidarité, en fait, qui était jusqu'à 10 jours encore interdit.
Il a donc saisi le Conseil constitutionnel.
Voilà. Il a déposé ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Il avait été condamné en appel, donc il s'est pourvu en cassation, à l'occasion de laquelle il a déposé donc cette question prioritaire de constitutionnalité. Arguant ses avocats plaidant que la fraternité en France, c'est un principe constitutionnel. C'est dans notre devise, liberté, égalité, fraternité. La liberté et l'égalité, le Conseil constitutionnel s'est très souvent appuyé dessus pour leur reconnaître que ces valeurs ont une vertu constitutionnelle. Ce n'était pas le cas de la fraternité. C'était un peu tout l'enjeu de cette plaidoirie, de cette audience au Conseil. Et ils ont été écoutés. Le Conseil a reconnu justement la vertu constitutionnelle. Ouais. Ça fait beaucoup de fois constitutionnel de ce principe de fraternité.
Donc concrètement, ça veut dire quoi?
Pour Cédric Héroux, tout d'abord, ça veut dire qu'il va donc la loi selon laquelle il était jugé est censurée par le Conseil constitutionnel. Donc dans quelques semaines, nouvelle audience. Et nullité des poursuites, sa condamnation va être annulée.
La sienne et celle des autres, puisque personnes en France sont également condamnées pour les mêmes motifs.
Voilà. En fait, concrètement, ce qu'a fait c'est un peu compliqué. Donc, c'est le code d'entrée et de séjour des étrangers en France, le CESEDA. L'article 622.1 interdit l'aide aux personnes en situation irrégulière. Là-dessus vient compléter l'article 622.4 qui fixe quelques exceptions, comme on n'a pas le droit d'aider quelqu'un sauf si on lui donne un conseil juridique, sauf pour de l'hébergement. Dans tous les cas, il faut que ce soit une aide désintéressée, non rémunérée. Le Conseil constitutionnel, en fait, élargit tout ce que tous les détracteurs de ce délit de solidarité disaient. Oui, mais ces exceptions, elles sont trop contraignantes. Dans le cas de Cédric Herrou, il s'est vu condamné malgré ces exceptions. Donc, le Conseil constitutionnel, en gros, pour résumer très sommairement, dit du moment que, au nom du principe de fraternité, on est solidaire, on peut aider une personne en cas de nécessité, du moment que c'est une aide désintéressée.
Qu'il n'y a pas de contrepartie financière, voilà. Notamment. Cette décision tombe en plein examen du projet de loi Asile-Immigration. Est-ce que cette nouvelle donne du Conseil constitutionnel aura un impact sur le texte?
Totalement, puisque de toute façon les députés, les sénateurs devront le prendre en compte et modifier la... La loi d'immigration, en fait, elle est en deuxième lecture en ce moment, qui a commencé hier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée et le Sénat se sont un peu écharpés, ils sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent mettre dedans. Le Sénat voulait garder un peu la situation actuelle. L'Assemblée assouplir ce délit de solidarité, mais non, sans aller très loin non plus. Là, de toute façon, la décision du Conseil constitutionnel va mettre tout le monde d'accord et ils ont jusqu'au 1er décembre pour mettre la loi en conformité de la décision du Conseil.
Sam, a-t-on répondu à vos questions ?
Effectivement, et j'ajoute une petite chose, si vous me permettez, Juan.
Allez-y.
Toute ma pensée au ministère des Affaires étrangères français d'avoir permis à quelques lycéens syriens de passer leur bac au Liban.
Ah, d'accord. Très bien. Des lycéens syriens qui ont pu passer leur bac au Liban, notamment grâce à l'intervention du ministère des Affaires étrangères français. Merci à vous, Sam, de nous avoir appelé et d'écouter RFI à Lubumbashi en République démocratique du Congo. À bientôt, Simon Rosé.
Bonne journée.
10h17 à Paris, 33 9 693 693 70. Plusieurs questions maintenant sur la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Amadou, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, au Mali. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, merci. L'Éthiopie et l'Érythrée ont récemment signé un accord de paix. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils signaient un accord de paix. Les précédents qui ont été signés ont été tous des échecs. Alors ma question était de savoir... En quoi ce nouvel accord de paix est-il durable ?
Ouais. Alors ce n'est pas vraiment un accord de paix, c'est plutôt une déclaration de paix et d'amitié, mais quoi qu'il arrive, cette signature reste historique. Léonard Vincent, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous Léonard Vincent, les auditeurs de RFI vous connaissent, vous avez été journaliste dans cette maison, vous l'êtes toujours, journaliste, écrivain. On vous doit plusieurs ouvrages notamment, et c'est important de retenir son nom, Les Érythréens. Je dis c'est important puisque rares sont les livres consacrés à l'Éthiopie, publiés en France. Les Érythréens, c'est aux éditions Rivage. Je crois même qu'on le trouve en poche.
Absolument.
Donc, les livres de poche sont moins chers. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez mieux comprendre et mieux connaître ce pays qu'est l'Érythrée. On est donc là, Léonard Vincent, 20 ans après cette guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a fait 80 000 morts. Les deux pays voisins ont signé, en début de semaine, comme le rappelait Amadou, cette déclaration de paix et d'amitié. C'est un moment historique puisque je crois que depuis cette guerre de 98, jamais un dirigeant éthiopien n'avait rencontré un dirigeant érythréen.
Non, absolument. C'est 2 ans de guerre et 18 ans d'injures. Hein. Mmh. Des injures armées parfois. Hein. Il y a eu plusieurs moments où on a craint le retour de la guerre. Hein. Y compris il y a quelques mois encore où autour d'accrochages autour de la frontière, on a vraiment cru à la résurgence de la guerre. Il faut savoir qu'autour de cette guerre, il n'y a pas seulement l'Érythrée et l'Éthiopie. Il y a un certain nombre d'acteurs internationaux, régionaux et internationaux. Alors, chacun utilise cette guerre et ce conflit, a utilisé par le passé l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les États-Unis. On peut lister comme ça tous ceux qui ont cherché à mettre de l'huile sur le feu parce que ça les arrangeait.
La déclaration signée lundi stipule que l'état de guerre est arrivé à sa fin. Vous qui connaissez bien la région, peut-on être optimiste ou, comme le rappelait Amadou, notre auditeur, c'est un réchauffement qui risque de capoter prochainement?
Ben Amadou a raison d'être prudent. Effectivement, je veux dire, l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée n'a pas commencé en 1998 avec la guerre ou en 2000 avec l'accord de paix qui n'a jamais vraiment été appliqué. L'histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie date de plusieurs siècles. L'Érythrée était une province de l'Empire éthiopien, une province contrainte. Elle a été annexée par l'empereur. Enfin, il y a une histoire histoire extrêmement conflictuelle. Il y a eu 30 ans de guerre d'indépendance, hein, entre 1961 et 1991, qui a pris de multiples formes, qui a été extrêmement cruelle. L'Éthiopie a agi comme puissance tutélaire, impérialiste sur le petit peuple érythréen. Leur combat a été héroïque. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le poids de l'histoire. Alors aujourd'hui, cet accord, cette déclaration de principe, cette déclaration de paix, elle porte tout le poids du symbolique et tout le poids que peut apporter l'imaginaire et le symbolique dans la politique. Mais en réalité, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a été décidé. Il y a des annonces et des intentions.
Enfin, quand même, une reprise du commerce, reprise des transports, par exemple, on nous annonce les vols qui reprendront dès la semaine prochaine entre les deux capitales. Oui. Le mois prochain, ce sont les bus qui vont relier les deux capitales. Il y a quand même des petits gestes concrets.
Oui, mais quand on connaît la situation sur le terrain, on est en droit de se poser un certain nombre des questions qui sont très complexes. Je vous donne un exemple. Les Érythréens ne sont pas possesseurs de passeport automatiquement à leur majorité. Pour avoir un passeport, il faut être démobilisé. Or, vous le savez, on l'a suffisamment dit sur cette antenne, les Érythréens sont tous enrôlés dans l'armée de force à 17 ans. Et ils ne sont démobilisés qu'une fois les caprices du gouvernement estimant qu'ils ont fait leur devoir, c'est-à-dire que c'est souvent autour de 40-50 ans. Donc on ne peut obtenir un passeport qu'une fois qu'on a fait ses classes et son service militaire. Et une fois qu'on a un passeport qui coûte très cher et qui est décerné, qui est délivré au gré des caprices de la présidence, il faut avoir un visa de sortie. Ce qui veut dire que ça ne change rien pour les Érythréens. Alors les liaisons en bus, c'est encore autre chose. Il faudra peut-être un autre titre de transport, parce que l'avion, c'est très particulier. Mais quid de ces transports? Est-ce que ça va être le transport des futurs réfugiés érythréens? Est-ce que les autorités érythréennes vont autoriser désormais ceux qui fuient à pied à travers les djebels de fuir à travers la route, simplement à travers les postes frontières en bus?
Et puis il y a d'autres obstacles également encore à surmonter pour que la paix soit concrète et définitive. Il y a cette question de la démarcation de la frontière et puis aussi la démilitarisation de la zone frontalière.
Oui, ça va être vraiment c'est le premier chantier qui doit être entamé. Le conflit frontalier n'était pas résolu parce que l'Éthiopie continuait d'occuper Badme et Zalambessa, qui sont deux villages et deux districts qui avaient été accordés en 2002 par la commission arbitrale suite à l'accord de paix de 2000. L'Éthiopie continuait à l'occuper en disant il faut négocier. Parce que quoi? Il y avait à l'intérieur, il y a toujours aujourd'hui les habitants de Badme et Zambessa qui sont des Tigréens éthiopiens et qui ne veulent pas devenir érythréens. Donc que signifie le transfert de pouvoir de Badme et Zambessa, le transfert de souveraineté? Est-ce que ça signifie qu'on va devoir expulser les milliers de gens qui habitent à Badme et Zambessa, qui vont devoir revivre dans le Tigré éthiopien, ou est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à vivre là-bas en devenant érythréens? Est-ce que, enfin voilà, je veux dire, il y a un énorme chantier sécuritaire.
D'autres questions, Léonard Vincent Junior est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons.
Est-ce que ces rapprochements fait-il unanimité entre les différents regroupements politiques de ces deux pays?
Alors, comment réagit-on effectivement au sein de la classe politique éthiopienne d'abord, puisque érythréenne c'est bien compliqué, il n'y a pas d'opposition, il y a un seul homme, un homme fort au pouvoir depuis des décennies, en Éthiopie?
Alors en Éthiopie, c'est très compliqué parce que vous savez que le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed est un Oromo. L'Éthiopie est composée d'une fédération de nationalités et la coalition au pouvoir est elle-même une fédération de nationalités. Lui, Abiy Ahmed, représente la section Oromo de cette coalition. Avant, c'était les Tigréens. Le Tigré est cette province qui fait la frontière avec l'Érythrée. Donc aujourd'hui, les Tigréens sont marginalisés. Il y a eu une véritable épuration dans l'administration et dans l'armée parce que les Tigréens ont dominé les affaires, l'armée, etc. pendant des années. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des Tigréens marginalisés, montrés du doigt, avec eux qu'il va falloir négocier tout ça. Eux qui tiennent encore le pouvoir dans la province qui fait la frontière et qui tiennent encore des positions clés dans l'armée.
Et en Érythrée, on a vu des scènes de liesse lundi dans les rues d'Asmara, ce qui est quand même très rare.
Oui, mais c'est la dimension symbolique et imaginaire qui est importante et qui s'est exprimée. Il ne faut pas négliger ça. Il y a une vraie avancée dans les cœurs et dans les esprits des Éthiopiens et des Érythréens. Les Éthiopiens, les Érythréens se considèrent comme des frères. Et ça, depuis très longtemps. Ils parlent des langues très proches, c'est le même alphabet, c'est la même religion. Ce sont des gens qui ont des familles de l'autre côté de la frontière. Donc il y avait évidemment cette dimension libératrice, émancipatrice de ces gestes symboliques qui sont effectivement historiques. Tout le reste est beaucoup plus compliqué.
Merci Léonard Vincent.
Merci Juan.
D'être venu dans ce studio répondre à quelques-unes des questions reçues sur ce rapprochement, réchauffement entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Vous voulez en savoir un peu plus sur l'Érythrée? Et bien surtout, n'hésitez n'hésitez pas, allez acheter Les Érythréens aux éditions Rivage, sinon en poche évidemment. À bientôt Léonard Vincent.
Merci.
10h26 à Paris, il nous reste encore quelques minutes. On va prendre une dernière question ce matin. On va revenir sur l'ancien président Lula, l'ancien président brésilien. Vous avez certainement suivi sur notre antenne cette histoire digne d'une telenovela brésilienne. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes à Conakry en Guinée, nous vous écoutons.
Merci. En fait, l'ex-président brésilien Lula a bénéficié d'une liberté provisoire ce week-end passé. Malheureusement, cette décision a été suspendue par un juge de la même cour. Donc, ce paradoxe qui me pousse de poser cette question, comment on peut expliquer ce revirement judiciaire ?
En quelques heures, effectivement. C'est vrai que dimanche, pour être précis, l'ancien président condamné, rappelons-le, à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent, a cru que sa libération était imminente. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Spécialiste, politologue, vous connaissez bien l'Amérique latine. Aidez-nous à comprendre comment expliquer que dimanche, en début de l'après-midi, un juge décide d'accorder une remise en liberté au président Lula et quelques heures plus tard, un autre juge dit « pas question, il reste en prison ».
Alors, la question porte sur les recours qui ont été présentés par les avocats de Lula concernant sa détention et le fait que trois députés du Parti des Travailleurs ont fait une demande vendredi dernier en émettant des éléments nouveaux dans cette demande de recours, puisque les avocats Lula ont déjà présenté de nombreux recours qui ont été refusés par la justice. Or, ce nouveau recours présentait une information nouvelle, ce qui, aux yeux du juge de la cour d'appel, justifiait la libération de Lula. Et il y a eu, à la suite de cette libération surprise, puisque personne ne s'attendait à ce que cela ait lieu, une véritable réaction que moi je jugerais très dangereuse, puisque certains juges, notamment le juge Moreau, donc qui est à l'origine de la condamnation de Lula, ont pris des mesures qui, de mon point de vue, sont à la limite de la légalité, et ce qui ont provoqué in fine que l'ancien président Lula reste en prison le dimanche soir.
Oui, puisque le juge Moreau, qui est donc le responsable de cette opération anticorruption, a clairement donné l'ordre à la police de ne pas respecter le jugement de son collègue qui était de permanence ce jour-là à la cour d'appel de Porto Alegre. Vous dites que c'est une réaction dangereuse, mais en même temps, la presse brésilienne, les journalistes ont fait leur travail, ils sont allés enquêter, et ils se sont rendu compte que le juge qui avait accordé cette libération au président Lula, c'est un juge qui a été membre du Parti des Travailleurs, le parti de Lula. Ils ont même travaillé ensemble. Donc on peut se demander si à un moment donné, ce juge-là n'a pas pris une décision qui est plutôt politique que judiciaire.
Le problème, c'est que ce genre d'argument se tient à partir du moment où vous êtes isonomique, c'est-à-dire où vous portez sur les biographies des magistrats, des juges, le même type de jugement. Or, de nombreux juges, y compris des juges de la Cour suprême qui ont refusé le recours de Lula, je pense par exemple à Alexandre de Moraes, il y a quelques semaines, était avant d'être nommé ministre de la Cour suprême, ministre de la Justice de M. Temer, militant du PSDB, donc de la droite brésilienne depuis plus de 20 ans. Et c'est ce même juge qui, sur des bases qui sont aussi discutables, a refusé ce genre de recours. Donc, de mon point de vue, il n'y a aucun souci de mettre sur la place publique l'origine, les filiations des juges, mais il faut que ce soit des deux côtés.
Effectivement, de tous les magistrats.
Voilà, et je pense que sur le fond, il y a eu une violation de la part de M. Moreau de la hiérarchie de la loi. Un juge ne peut pas demander à la police judiciaire de violer la loi, parce que c'est ce qui a eu lieu.
Oui.
M. Moreau était en vacances, il n'avait aucune compétence pour demander à ce que la police suspendre ce jugement. Il avait rien à dire.
Vous contestez la méthode du juge Moreau qui était en vacances effectivement au Portugal. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué cette affaire abracadabrantesque. Voilà, je me lance là-dessus, j'y suis arrivé quand même. Restez avec nous dans 10 minutes, RFI continue à vous donner la parole.